Bref, biographie de Isaac Pennington, récit de Thomas Elwood et témoignage de Pennington. Isaac Pennington, 1616-1679, était le fils aîné de ce Isaac Pennington, qui fut Lord Maire de Londres en 1642 et 1643, et un puritain congrégationaliste convaincu. Son père siégea au tribunal qui condamna Charlier pour haute trahison et le fit exécuter. En 1654, il épousa Mary, veuve de ce William Springet et fille de ce John Prude. La belle-fille de Pennington, Guglielma Maria Springet, épousa William Penn. Isaac et Mary avaient, depuis quelque temps, fait partie de ce qu'on appelait les Seekers, et cette expérience les avait préparés à entendre la vérité du message quaker d'union et de restauration à l'image de Dieu. Leur conviction eut lieu en 1658 et peu après, ils s'installèrent dans le Buckinghamshire. Pennington subit 6 emprisonnements, 5 à Aylesbury et 1 à Reading, qu'il endura avec sérénité, et il semble qu'il ne fit pas de grands efforts pour obtenir sa libération. Ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'atteignit le royaume que tard dans sa vie. Sa souffrance servit à le conduire à la perfection comme faisant partie de sa croix. Cela expliquerait l'affirmation contrastée de Penn et comparant Pennington à Fox, lequel était dans le royaume avant l'âge de 22 ans. Fox, actif et alerte de corps et d'esprit, passa à travers le danger dont Pennington, calme et soumis, fut une proie facile. Pennington fut un auteur prolifique de littérature religieuse. Contrairement à la majorité des premiers amis, il écrivait déjà avant de rencontrer George Fox, ce qui fut le moment décisif de sa quête de la voie sainte vers l'union avec Dieu et de devenir quaker. Il y eut plusieurs éditions de ses livres et de nombreuses lettres de lui ont été imprimées. Isaac et Mary Pennington eurent 5 enfants. Il existe des descendants vivants en Amérique. Sa mort eut lieu à Godneston, dans le Kent. Selon Penney, malgré ses nombreux ennemis et détracteurs, piqués par ses écrits, il y a difficilement pu avoir un homme d'une plus grande innocence. Ce qui suit est un récit du mariage de Pennington et de sa conversion à la foi quaker. C'était environ 10 ans après la mort de son premier mari que Lady Springet et Isaac Pennington se marièrent. Les circonstances de leur conversion au principe des amis se trouvent dans les paroles de Madame Pennington elle-même, qui avait écrit ses mémoires au bénéfice de son petit-fils, Springet Penn. Elle dit « Un jour, comme mon mari et moi nous promenions dans un parc, un homme qui, depuis peu de temps, fréquentait les réunions des Quakers nous vit passer, juché dans notre carrosse, vêtu de nos habits d'apparat, vint. Il nous parla de notre orgueil, ce dont je me moquais en disant, le voilà bien prédicateur public, à prêcher sur les grands chemins. Il revint en arrière, disant qu'il avait de l'amour pour mon mari, voyant la grâce dans son visage. Il s'approcha de la barrière et parla de la lumière et de la grâce de Dieu qui s'était manifestée en tous les hommes. Mon mari et lui s'étant engagés dans une discussion, le maître de maison arrivant invita l'étranger à entrer. Il n'était que jeune, et percevant que mon mari le surpassait trop selon la sagesse charnelle, il dit qu'il amènerait le lendemain un homme qui répondrait mieux à toutes ses questions et objections. Ce fut le début de la conviction quaker d'Isaac et de Mary Pennington. Commentant les processus de la conversion de celle-ci au quakrisme, un auteur de cette secte a dit « Elle passa par un temps terrible, mais elle n'osait que d'obéir. C'est alors qu'arriva la récompense glorieuse et suffisante de ses précédents combats spirituels. Elle était déjà un esprit exercé et entra dans la parole de commandement dès qu'elle fut clairement entendue. Mais pendant de nombreux mois, la lutte dura. Son devoir l'appelait, en apparence, à abandonner ses habitudes mondaines et ses amis et à contrarier les souhaits de ses proches. Ces choses pourtant, elle les fit, et elle reçut alors la force d'assister à quelques réunions des amis méprisés. « Je trouvai qu'ils étaient véritablement du Seigneur, écrivit-elle, et mon cœur les reconnut et les honora. » Pour Isaac Pennington, la conviction fut une lutte immense, et il ne capitula qu'après avoir entendu George Fox, à la célèbre assemblée annuelle chez John Crook, dans le Bedfordshire, à la Pentecôte de 1658. Pennington évoque ainsi sa propre conversion. « Je sentis parmi eux la présence et la puissance du Très-Haut, et des paroles de vérité, venant de l'Esprit de vérité, atteindre mon cœur et ma conscience, ouvrant mon état comme en présence du Seigneur. Oui, non seulement je sentis des paroles et des démonstrations du dehors, mais je sentis les morts vivifiés et la semence relevée, au point que mon cœur, dans la certitude de la lumière et une vraie clarté, dit « c'est lui, il n'y en a pas d'autre. C'est lui que j'ai attendu et recherché depuis mon enfance, lui qui fut toujours près de moi et qui a souvent engendré la vie dans mon cœur, mais je ne le connaissais pas distinctement, ni comment le recevoir ou demeurer avec lui. » Et alors, dans ce sentiment, dans la fonte et les brisements de mon esprit, je fus livré au Seigneur. Peu de temps après la conversion d'Isaac Pennington, les troubles vinrent sur lui et sur ceux qui lui étaient chers, épais et rapides. Oliver Cromwell mourut cette année-là, le 3 septembre 1658, en temps voulu Charlie monta sur le trône. L'aîné Isaac Pennington, son père, fut jeté à la tour comme prisonnier, là même où il avait été gouverneur. Il fut jugé et condamné à mort, mais comme il est dit, l'ancien Lord Maire mourut de ses infirmités avant que ne vienne le jour de son exécution. Le domaine de ce dernier fut confisqué, et parmi d'autres biens saisis se trouvait Chalfont Grange, la demeure du jeune Isaac Pennington, qu'il sut. Mais d'autres troubles, plus graves, vinrent à Isaac Pennington, et comme conséquence directe de sa conversion. Par ordre militaire du comte de Bridgewater, Pennington fut envoyé à la prison d'Aylesbury parce qu'il ne voulait pas l'appeler « Milord » et dire « Votre humble serviteur ». À ce moment précis, la peste faisait rage dans la prison. Une autre fois, plus tard, il fut incarcéré sur ordre du comte de Bridgewater. Ces deux emprisonnements durèrent respectivement 9 et 18 mois. Mais ce n'était nullement tout. Entre 1661 et 1672, il passa 4 ans et 3 quarts en prison, le plus souvent à Aylesbury, mais une fois à Reading. Une fois, il fut arrêté alors qu'il assistait à une réunion. Une fois alors qu'il marchait dans la rue au sein d'un cortège funèbre, le cercueil ayant été jeté à terre. Une autre fois alors qu'il était au lit. Encore une fois à l'occasion de la naissance de l'un de ses enfants. Et c'est pendant qu'il était en prison que sa famille fut expulsée de Chalfont Grange. Mais rien de tout cela n'ébranla Isaac Pennington ni Mary, son épouse dévouée. Pendant sa détention, comme dans les intervalles entre ses nombreuses persécutions, Isaac Pennington consacra son temps à écrire des brochures et des livres sur des sujets religieux, principalement pour expliquer et défendre les doctrines des Quakers. La liste de ses œuvres occupe 26 pages dans le catalogue des livres des Amis de Joseph Smith. Après avoir été dépossédé du Grange, et durant l'une des interruptions entre les emprisonnements d'Isaac Pennington, la famille Wakerberry House, près d'Amsham, dans le Buckinghamshire, et c'est là que William Penn vint faire la cour à la fille de Madame Pennington issue de son premier mariage, Gulielma Maria Springett, qui avait été élevée dans la famille d'Isaac Pennington comme faisant partie de sa maisonnée. Après le mariage de la fille avec Penn, le 4 avril 1672, la famille Pennington s'installa à Woodside, dans la paroisse d'Amersham, près de leur ancienne résidence. Ici, Isaac Pennington passa le reste de ses jours dans la paix, mourant finalement le 8 octobre 1679, à Goodnestone Court, dans la paroisse de Goodnestone, comté de Kent, où il était allé en visite, Goodnestone Court étant la propriété de son épouse, qu'elle avait héritée de son père, Sir John Prude. Sa veuve lui survécut 3 ans. Sa mort eut lieu à Worminghurst, dans le Sussex, la demeure de William Penn, le 18 septembre 1682, un peu plus de 15 jours après que son illustre gendre eut quitté les Downs, sur le navire Welcome, pour la Pennsylvanie, son nouveau monde sur les rives du Delaware. Le mari et la femme furent tous deux enterrés à Jordan, près de leur ancien foyer Chalfont Grange. À côté d'eux furent déposés les restes de la fille, Gulielma Maria Penn, première épouse de William Penn, morte le 22 février 1693-94. Dans la tombe voisine, en temps voulu, fut enterré le fondateur William Penn lui-même. Les quatre pierres tombales simples, côte à côte, se voient encore aujourd'hui à Jordan. Isaac et Mary Pennington eurent 6 enfants, à savoir John, Mary, Isaac, un autre fils dont le nom est inconnu mort jeune, William et Edward. L'aîné des 6 enfants, John Pennington, fut l'auteur de plusieurs brochures des Amis, dont 2 relatives au schisme de George Keith, furent publiées à Londres en 1695. Récit sur Pennington par Thomas Elwood. Bien que je n'ignore pas que de nombreux témoignages graves et vivants ont déjà été rendus par de vrais et fidèles témoins à la même occasion, ce qui pourrait bien sembler suffisant pour excuser le mien, je n'en suis pourtant pas quitte. Je sens plutôt une insistance sur mon esprit à écrire aussi quelques lignes concernant ce cher ami défunt. Ce à quoi, je l'avoue, je suis portée, et en quelque sorte engagée, par la double obligation de l'affection et de la gratitude. Je l'aimais et cet amour était entier, et je suis sûre qu'il était très mérité, car il était digne d'être aimé de tous les hommes mais plus spécialement de moi, envers qu'il avait été abondamment bon. Car au jour où il plut au Seigneur de réveiller mon âme et de m'appeler hors des souillures du monde, tant quant au culte qu'à la conduite, c'est pourquoi je devins la risée de mon pays, le mépris et le dédain de mes amis et connaissances, et en quelque manière un proscrit aussi exposé comme au monde a changé en lui, combien alors étais-je bienvenu. Avec quelle affection me reçut-il, avec quel soin prit-il soin de moi, avec quelle tendresse et comme un père veilla-t-il sur moi, afin que je ne sois pas ramené en arrière, ni d'aucune manière trahi loin de la simplicité de la vérité, telle que je l'avais reçue, et puis-je jamais oublier son amour, ou laisser sortir de mon esprit ses multiples bontés. Oh non, son souvenir m'est agréable, et je ne puis penser à lui sans délices. Car comme ami, je l'aimais véritablement, comme père, car tel soin de sa part le faisait être pour moi, je le révérais, comme ancien je l'honorais, et cela comme il le méritait fort bien d'un double honneur. Mon esprit était véritablement uni au sien, oui, mon âme était liée et attachée à lui dans la sainte alliance de vie que la mort n'a pas pu dissoudre. Supportez-moi donc un peu, je vous en prie, qui que vous soyez, sous les yeux de qui ces lignes pourraient par hasard tomber, si je prends la liberté d'exprimer mon sentiment à l'égard de cet ami bien-aimé. Et si, ce faisant, je semble quelque peu particulier, sachez que mon acquaintance avec lui l'était aussi. Il était naturellement doté d'un esprit vif et excellent, bien cultivé et poli par une éducation honnête et libérale. Son caractère était courtois et affable, exempt d'orgueil et d'affectation. Son discours ordinaire était joyeux et agréable, ni morose ni léger, mais d'une douceur innocente, tempérée d'une gravité sérieuse qui rendait sa conversation à la fois plaisante et profitable. Dès son enfance, comme je l'ai entendu le dire à l'occasion, il avait des inclinations religieuses et cherchait le Seigneur dans ses jeunes années. Et bien que la voie de vérité ne lui fût pas alors ouverte comme elle le fut depuis, par la bonté du Seigneur, il n'en demeure pas moins qu'il eut alors, par moments, de véritables touches et goûts de la vie, des ouvertures et des visions des choses célestes, quoique pas aussi claires, pures et durables qu'ensuite, comme le manifestent clairement les traités qu'il écrivit alors. Et bien qu'à la première manifestation de la vérité pour lui dans la présente dispensation il ne fût pas sans doute ni soupçon à son sujet, comme il le rapporte lui-même, ni libre pendant quelque temps de disputes et de raisonnements contre l'humilité de son apparence, toutefois, après qu'il plût au Père dans les richesses de sa grâce de révéler son Fils en lui, lui donnant par là de voir et de connaître avec certitude quelle était cette bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, oh avec quelle joie la reçut-il! Avec quelle volonté s'y soumit-il, avec quelle promptitude donna-t-il son cou au joug du Christ, et avec quelle constance et quel plaisir le porta-t-il, s'attacha-t-il alors au plaisir du temps, ou estima-t-il les préférences et les honneurs du monde, bien qu'il vécût alors dans sa faveur et son abondance? Non, non, il tourna le dos à tout cela, estimant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, et déposant sa couronne aux pieds de Jésus, il devint volontairement un insensé pour le monde et pour sa sagesse, afin d'être rendu véritablement sage pour Dieu. En quoi il obtint assurément son désir, car de même qu'il honorait le Seigneur et le préférait à tout, de même le Seigneur l'honora grandement, et lui donna libéralement la vraie sagesse céleste, ornée d'humilité, de sorte qu'il était instruit, et pourtant humble, plein de connaissances, connaissances célestes, et pourtant non enflé par elles. Et comme il avait reçu librement du Seigneur, ainsi communiquait-il librement et avec empressement la même chose, comme en témoigne le témoignage qui suit, à ceux qui avaient besoin de conseils, d'avis, d'informations ou de direction dans leur marche vers le pays céleste. À ce service, il était apte et très bien pourvu par les expériences de son propre cheminement, car le Seigneur l'avait conduit à travers bien des passages étroits et difficultés, à travers maintes tentations, épreuves et exercices par lesquels le Seigneur l'avait éprouvé et éprouvé. Non seulement il avait traversé la mer Rouge et le désert, mais il avait aussi vu le fond du Jourdain, et il avait connu et senti le bras du Seigneur qui soutient et délivre à travers tout cela, par quoi il était capable de dire une parole d'instruction aux passagers égarés, une parole d'encouragement aux voyageurs las et défaillants, une parole de consolation à l'âme affligée, et une parole de réconfort à l'esprit blessé. Et oh, comme je l'ai entendu couler doucement de ses lèvres, comme cela tombait comme la rosée, et distillait comme une pluie douce, ah, combien il était tendre, compatissant, plein de entrailles et de sympathie sensible, assurément, ses paroles furent bien des fois comme des pommes d'or dans des ciselures d'argent. Car en vérité, le Seigneur était avec lui, et sa puissance céleste remplissait souvent son temple, et l'Esprit du Seigneur reposait sur lui, et les fruits en furent abondamment produits par lui, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la douceur, dans la bonté, dans la foi, dans la mansuétude et dans la tempérance, tant la parole du Seigneur habitait richement en lui. Son plaisir était dans le service de Dieu, auquel il s'était entièrement livré, et il y passa la plus grande part de son temps, soit publiquement dans les réunions attendant Dieu, soit en privé visitant et assistant ceux qui étaient en détresse ou affligés en esprit ou en corps. Et lorsqu'il était chez lui, il se retirait fréquemment et était très intérieur avec le Seigneur. Il était très ferve dans la prière et très assidu, car l'esprit de grâce et de supplication avait été abondamment répandu sur lui, par lequel il luttait souvent avec le Seigneur, et non en vain. Il lisait fréquemment les Saintes Écritures, avec grand plaisir et grand profit, car il n'en faisait pas une affaire cursive ou formelle, ni ne cherchait à en tirer le sens par son esprit naturel ou son érudition, mais avec un grand recueillement d'esprit et une révérence intérieure, il attendait de recevoir leur vrai sens par les ouvertures de cet esprit divin par lequel leurs auteurs furent inspirés. Le travail de son esprit pour la conversion des autres était grand et puissant, et d'une manière plus particulière son amour s'épanchait et ses entrailles se mouvaient envers les croyants établis en Christ, pour lesquels il travailla continuellement et avec ardeur, tant par la parole que par l'écrit, ne cessant pas de les rechercher jusqu'à son dernier jour, afin qu'ils soient retirés des ombres et en viennent enfin à hériter de la substance. Et béni soit le Seigneur, par l'opération puissante de l'Esprit de Dieu, au travers de son ministère, beaucoup furent tournés vers la vérité et beaucoup y furent affermis, car le Seigneur était avec lui et parlait par lui, de sorte que son enseignement était revêtu d'une autorité divine dans la démonstration de l'esprit et de la puissance. Pour le monde et ses affaires, il était très étranger, mais profondément expérimenté dans les choses de Dieu. Car son affection était tournée vers les choses d'en haut, sa conversation était dans les cieux, et sa vie cachée avec Christ en Dieu. Il n'était qu'un pèlerin sur la terre, et il est maintenant rentré chez lui. Dans sa famille, il était un véritable modèle de bonté et de piété, non seulement par son exemple grave, mais par ses instructions et exhortations savoureuses à la piété. Pour sa femme, il fut un époux des plus affectueux, pour ses enfants un père aimant et tendre, pour ses serviteurs un maître doux et bienveillant, pour ses amis un ami sûr et constant, pour les pauvres compatissant et d'un cœur ouvert, et pour tous courtois et bons. Il était très zélé pour la vérité, infatigable à la promouvoir, hardi et intrépide à la défendre, fidèle dans son témoignage pour elle, patient et joyeux dans ses souffrances pour elle. Il était un homme très bon et pieux, un homme qui craignait véritablement Dieu et évitait prudemment le mal. Ses exercices furent grands et variés au temps de ses anciennes professions. Combien son esprit alors était ardent et pressant après la jouissance pure de Dieu, combien les voies du Seigneur furent étranges et admirables envers lui, et jusqu'où enfin il parvint à voir le travail de son âme et à être satisfait, comme lui-même le savait mieux que tout homme. Ainsi a-t-il à l'occasion semé une indication de cela dans plusieurs passages des livres qui suivent, ce que pour la satisfaction du lecteur, j'avais un temps pensé. Dans la préface et dans le post-scriptum, Babylon the Great Described, etc., The Scattered Sheep, etc., En Examination of the Grounds, etc., et à Glass for Professor, Where is the Wise? Observation on Rome, 14-20, Of the Church in its First and Purest State, The Holy Truth and People Defended, sans énumérer chaque détail. Le récit de Pennington sur ses voyages et labeurs spirituels est le suivant, un récit vrai et fidèle bref me concernant en référence à mes labeurs spirituels et aux voies du Seigneur envers moi. Je dis vrai et fidèle parce qu'il est de la vérité et qu'il n'est pas produit selon ma propre volonté, mais selon la volonté du Seigneur et ce qu'il exige de moi en ce temps pour son service. Le récit est le suivant. J'ai été un homme de tristesse et d'affliction depuis mon enfance, sentant le manque du Seigneur et le pleurant, séparé par lui de l'amour, de la nature et de l'esprit de ce monde, et tourné en esprit vers lui, presque depuis aussi loin que je me souvienne. Dans le sentiment de mon état perdu, je cherchais le Seigneur, je lus les Écritures, je veillais sur mon propre cœur. Je criais au Seigneur pour ce que je sentais me manquer, je bénis son nom pour ce qu'il fit miséricordieusement pour moi et ce qu'il me donna. Tout ce que je lisais dans les Écritures comme étant, selon mon entendement, la voix de Dieu, je m'appliquais à le pratiquer fidèlement, me contentant de rencontrer tout l'opprobre, l'opposition et les diverses sortes de souffrances qu'il plut au Seigneur de mesurer en moi. Et je ne puis que dire que le Seigneur fut bon envers moi. Il me visita, il m'enseigna, il m'aida, il témoigna bien des fois de son acceptation de moi, pour le rafraîchissement et la joie de mon cœur devant lui. Mais mon âme n'était pas satisfaite de ce que je rencontrais, ni d'ailleurs ne pouvait l'être, car il y avait dans mon esprit d'autres vivifications et pressions vers une connaissance plus pleine, plus certaine et plus satisfaisante. Oui, vers le sentiment, la vision et la jouissance de Dieu, tel qu'il est attesté dans les Écritures qu'ils furent sentis et goûtés dans les temps anciens. Car je voyais clairement qu'il y avait arrêt des courants et grand défaut de la puissance, de la vie et de la gloire dont il participait. Nous n'avions pas ainsi l'esprit, ni n'étions ainsi dans la foi, ni ne marchions et ne vivions en Dieu comme eux. Ils étaient parvenus à la montagne de Sion et à la Jérusalem céleste, etc., dont nous n'avions guère même la connaissance littérale ou l'appréhension de ce qu'elles étaient. Ainsi je voyais que tout le cours de la religion parmi nous n'était, pour la plupart, que des paroles au sujet de ce qu'ils avaient senti, goûté, possédé et dans quoi ils vivaient. Ce sentiment me rendit vraiment malade au cœur et me porta à de profonds cris vers Dieu, à scruter de près les Écritures et à attendre Dieu, afin de recevoir leur sens et leur intelligence pure, de et dans la lumière et par l'aide de son esprit. Et ce que le Seigneur me donna dans cet état, je m'en souviens avec reconnaissance devant lui encore aujourd'hui, car il était alors mon Dieu, qui eut pitié de moi et veilla sur moi, bien qu'il ne lui eût pas plu alors de me diriger sur la manière de fixer mon esprit sur lui. Et alors je fus conduit, en effet, je ne courus pas de moi-même dans une voie de séparation d'avec le culte du monde vers une société rassemblée, car l'Écriture et l'Esprit de Dieu en moi en rendaient témoignage. Et ce que nous rencontrâmes alors, et quelle conduite et aide nous ressentîmes alors, il y en a un souvenir et un témoignage dans mon cœur jusqu'à ce jour. Mais il manquait quelque chose, et nous nous trompâmes de chemin. Car là où nous aurions dû pousser en avant vers l'esprit et la puissance, nous courûmes trop au dehors vers la lettre et la forme. Bien que le Seigneur nous aidât en beaucoup de choses, pourtant au-dedans il était contre nous, et amena sur nous ténèbres, confusion et dispersion. Je fus douloureusement brisé et obscurci, et dans cet état obscurci je restai parfois longtemps immobile, en deuil secret et criant au Seigneur nuit et jour. Parfois je courais çà et là, cherchant ce qui pourrait paraître ou éclore chez les autres, mais je ne trouvais jamais rien qui eût la moindre réponse dans mon cœur, sauf chez un peuple qui avait une touche de vérité. Mais je n'exprimai jamais autant à aucun d'eux, ni ne les sentis d'ailleurs capables d'atteindre ma condition. Enfin, après toutes mes détresses, mes errances et mes labeurs douloureux, je rencontrai quelques écrits de ce peuple appelé Quakers, sur lesquels je jetai un regard distrait et que je méprisais, comme étant fort en dessous de cette sagesse, cette lumière, cette vie et cette puissance que je désirais tant et que je recherchais. J'eus aussi, longtemps après cela, l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, et plusieurs d'entre eux furent poussés par le Seigneur, je sais maintenant que c'était ainsi à venir à moi. Je me souviens que, dès le début, ils atteignirent la vie de Dieu en moi, et cette vie répondit à leur voix, et fit naître en moi un grand amour pour eux. Mais dans mes raisonnements avec eux et mes disputes, seul dans mon esprit, j'étais fort loin de les reconnaître comme connaissant ainsi le Seigneur, ou paraissant ainsi dans sa vie et sa puissance comme ma condition le requérait et comme mon âme attendait. Oui, plus je conversais avec eux, plus il me semblait, selon mon entendement et ma raison, que je les dépassais et que je les piétinais, comme une pauvre génération faible, sotte et méprisable, qui avait en elle quelques bribes de vérité et quelques désirs honnêtes envers Dieu, mais très loin de l'intelligence claire et pleine de sa voix et de sa volonté. Et ce fut l'effet de presque chaque entretien avec eux, ils atteignaient toujours mon cœur, et je les sentais dans les secrets de mon âme, ce qui faisait que l'amour en moi continuait toujours, oui, parfois augmentait envers eux. Mais chaque jour mon entendement prenait de plus en plus le dessus sur eux, et au-dedans chaque jour, je les méprisais davantage. Après longtemps, je fus invité à en entendre un, comme je l'avais été souvent, eux dans un tendre amour me plaignant et sentant mon manque de ce qu'ils possédaient. Et il y eut une réponse dans mon cœur, et j'y allais avec crainte et tremblement, avec des désirs vers le trésor qui est au-dessus de tout et qui sait tout, afin de ne rien recevoir pour vérité qui ne fût de lui, ni de résister à quoi que ce fût qui fût de lui, mais de m'incliner devant l'apparition du Seigneur mon Dieu, et d'aucun autre. Et en vérité, lorsque je vins, je sentis parmi eux la présence et la puissance du trésor, et des paroles de vérité, venant de l'esprit de vérité, atteindre mon cœur et ma conscience, ouvrant mon état comme en présence du Seigneur. Oui, je ne sentis pas seulement des paroles et des démonstrations du dehors, mais je sentis les morts vivifiés et la semence relevée, au point que mon cœur dans la certitude de la lumière et la clarté d'un vrai sens dit « C'est lui, il n'y en a pas d'autre, c'est lui que j'ai attendu et recherché depuis mon enfance, lui qui fut toujours près de moi et qui a souvent engendré la vie dans mon cœur, mais je ne le connaissais pas distinctement, ni comment le recevoir ou demeurer avec lui. » Et alors, dans ce sentiment, dans la fonte et les brisements de mon esprit, je fus livré au Seigneur pour devenir sien, tant dans l'attente que sa semence soit davantage révélée en moi, que pour le servir dans la vie et la puissance de sa semence. Or ce que je rencontrai après cela, dans mes labeurs, dans mes attentes, dans mes exercices spirituels, ne peut se dire. Seulement, en général, je puis dire ceci, je rencontrai la force même de l'enfer. Le cruel oppresseur rugit contre moi et me fit sentir l'amertume de sa captivité, tant qu'il eut quelque pouvoir. Oui, le Seigneur était loin de mon secours et de la voix de mon rugissement. Je rencontrai aussi de profondes subtilités et des dispositifs pour m'enlacer dans cette sagesse qui semble capable de rendre sage dans les choses de Dieu, mais qui en vérité est folie et piège pour l'âme, la ramenant en captivité où les pièges de l'ennemi prévalent. Et ce que je rencontrai extérieurement de la part de mon cher père, de mes parents, de mes serviteurs, des gens et des puissances du monde, pour nulle autre cause que de craindre mon Dieu, de l'adorer comme il me l'a demandé, et de m'incliner devant sa semence, qui est son Fils, qui doit être adoré par les hommes et les anges à jamais, le Seigneur mon Dieu le sait, devant qui sont mon cœur et mes voix, lui qui me conserva dans l'amour envers et au milieu de tout ce que je souffris d'eux, et qui me conserve encore ainsi, béni soit son nom pur et saint. Mais certains peuvent désirer savoir ce que j'ai finalement rencontré, je réponds, j'ai rencontré la semence. Comprenez ce mot, et vous serez satisfait, et vous ne demanderez rien de plus. J'ai rencontré mon Dieu, j'ai rencontré mon Sauveur, et il n'a pas été présent avec moi sans son salut, mais j'ai senti des guérisons tomber sur mon âme de dessous ses ailes. J'ai rencontré la vraie connaissance, la connaissance de vie, la connaissance vivante, la connaissance qui est vie, et elle avait en elle la vraie vertu dont mon âme s'est réjouie en présence du Seigneur. J'ai rencontré le Père de la semence, et dans la semence je l'ai senti être mon Père. Là j'ai lu sa nature, son amour, ses compassions, sa tendresse qui ont fondu, vaincu et changé mon cœur devant lui. J'ai rencontré la foi de la semence, qui a fait et fait ce que la foi de l'homme ne peut jamais faire. J'ai rencontré la vraie naissance, la naissance qui est héritière du royaume et qui hérite du royaume. J'ai rencontré le vrai esprit de prière et de supplication, par lequel on obtient du Seigneur, et qui tire de lui tout ce dont la condition a besoin, l'âme levant toujours les yeux vers lui dans la volonté, et dans le temps et la voie qui lui sont agréables. Que dirais-je, j'ai rencontré la vraie paix, la vraie justice, la vraie sainteté, le vrai repos de l'âme, l'habitation éternelle où demeurent les rachetés. Et je sais que toutes ces choses sont vraies en celui qui est vrai, et je ne suis capable d'aucun doute, dispute ou raisonnement dans mon esprit à leur sujet, celui-ci demeurant là où il a reçu la pleine assurance et satisfaction. Et je sais aussi très bien et distinctement en esprit où sont les doutes et les disputes, et où sont la certitude et la pleine assurance, et dans la tendre miséricorde du Seigneur, je suis préservé hors de l'un et dans l'autre. Isaac Pennington Aylesbury le 15 jour du 3 mois, 1667, ce ne fut pas seulement à lui qu'il fut donné de croire, mais aussi de souffrir pour l'amour du Christ. Ses emprisonnements furent nombreux, et certains de longue durée, qu'il supporta avec une grande stabilité et une tranquillité d'esprit. Mais parce qu'un récit si général ne répondra peut-être pas à l'attente et au désir du lecteur, j'en ajouterai ici un plus particulier, mais aussi resserré et bref que possible. Son premier emprisonnement eut lieu à la prison d'Aylesbury, en 1661 et 1662, y ayant été incarcéré pour avoir adoré Dieu dans sa propre maison, où pendant 17 semaines, en grande partie en hiver, il fut détenu dans une chambre froide et très incommode sans cheminée, et ce dur traitement fit contracter à son corps délicat une maladie si grande et si violente qu'il ne put pendant plusieurs semaines après se tourner dans son lit. Son deuxième emprisonnement eut lieu en 1664, ayant été pris lors d'une réunion où lui et d'autres attendaient paisiblement le Seigneur, et envoyé à la prison d'Aylesbury, où il demeura de nouveau prisonnier entre 17 et 18 semaines. Son troisième emprisonnement eut lieu en 1665, ayant été arrêté, avec beaucoup d'autres, dans la rue d'Amersham, alors qu'il portait et accompagnait le corps d'un ami défunt jusqu'à la tombe. De là, il fut envoyé de nouveau à la prison d'Aylesbury, mais cette incarcération étant en vue du bannissement, elle ne dura qu'environ un mois. Son quatrième emprisonnement eut lieu la même année, 1665, environ un mois après sa libération du précédent. Jusqu'alors, son incarcération avait été le fait des magistrats civils, mais maintenant, afin qu'il éprouvât la sévérité de l'un et de l'autre, il tomba entre les mains des militaires. Un soldat grossier, sans autre mandat que celui qu'il portait dans son fourreau, vint à sa maison et lui dit qu'il venait le conduire devant ce Philippe Palmé, l'un des lieutenants adjoints du comté. Il y alla humblement et fut envoyé par lui sous escorte de soldats à la prison d'Aylesbury avec une sorte de mandat portant, que le geôlier le reçoive et le garde en sûre détention au bon plaisir du comte de Bridgewater, lequel avait, semble-t-il, conçu contre cet homme innocent une colère aussi grande qu'injuste, au point que bien que c'était l'année de la maladie on soupçonna la peste dans la prison, il ne voulut pas céder, malgré l'ardente instance d'une personne de qualité et de pouvoir considérable dans le comté. Par la suite, un prisonnier étant mort de la peste dans la prison, la femme du geôlier, son mari étant absent, permit à Isaac Pennington de se transférer dans une autre maison, où il fut enfermé environ 6 semaines, après quoi, par l'entremise du comte d'Ancram, une libération fut envoyée par Philippe Palmé, par laquelle il fut déchargé, après avoir souffert un emprisonnement de 3/4 d'année, avec un danger apparent pour sa vie, et cela sans aucune offense. Au bout d'environ 3 semaines passées à la maison, un détachement de soldats envoyé par Philippe Palmé sur ordre du comte de Bridgewater, disait-on, vint à sa maison et le saisissant au lit, l'emmena de nouveau à la prison d'Aylesbury, où sans que nulle cause fût alléguée ni aucun crime reproché, il fut maintenu en prison 1 an et demi, dans des pièces si froides, humides et malsaines, que cela faillit lui coûter la vie et lui procura une maladie si grande, qu'il demeura faible pendant plusieurs mois. Finalement, un parent de sa femme, par un habeas corpus, le fit transférer au banc du roi, où est la stupéfaction de la cour qu'un homme eût été si longtemps emprisonné pour rien, il fut enfin libéré en 1668. Ce fut son 5e emprisonnement. Son 6e emprisonnement eut lieu en 1670, à la prison de Reading, où il s'était rendu pour visiter ses amis qui y souffraient pour le témoignage de Jésus. Cela ayant été signalé à un certain Sir William Armoret, juge de paix du comté, demeurant dans la ville, il fut cité à comparaître devant lui et envoyé en prison, devenant compagnon de souffrance de ceux qu'il était venu visiter, eux qui souffraient pour la vérité. Il y demeura prisonnier 1 an et 3/4, et fut frappé de la sentence de promunir perte des biens à vie et emprisonnement à vie, mais finalement le Seigneur le délivra. Ainsi, à travers de nombreuses tribulations, entra-t-il dans le royaume, ayant été exercé, éprouvé, prouvé et approuvé par le Seigneur. Il fut longtemps dans la guerre, et comme un bon soldat, il endura vaillamment le combat des afflictions. Mais ayant combattu le bon combat et gardé la foi, il a maintenant, au bon temps du Seigneur, achevé sa course, et s'en est allé posséder la couronne de justice qui lui est réservée, et à tous ceux qui t'aiment la brillante apparition du Seigneur. Il fut pendant de nombreuses années un fidèle ouvrier dans la vigne du Seigneur, mais maintenant il a cessé de travailler, et ses œuvres le suivent. Il marcha avec Dieu, et il est transporté. Il vécut pour le Seigneur, et il mourut dans le Seigneur, et par l'Esprit du Seigneur il est déclaré bienheureux, qu'ainsi le nom du Seigneur soit béni à jamais. Il y a sur ce site des mémoires plus détaillées sur la vie d'Isaac et de Mary Pennington. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.